comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.
Ils sont 40, 40 entrepreneurs, 40 champions de la tech française. Comment sont-ils arrivés là? À quels enjeux font-ils face? Quels sont les ressorts qui les ont forgés? Je suis Thomas Benzazon, cofondateur du Brain Studio Feuille Blanche, et avec mon compère Olivier Mathieu, cofondateur de Price Minister et France Digital, nous vous plongeons dans l'univers de ces entrepreneurs d'exception et les coulisses du Next 40. Ils répondront à nos questions, à celles d'invités surprises, tout comme à nos partenaires que sont La Tribune, Madinès, France Digital, La French Tech et Neuflize OBC. Vous en voulez plus? Abonnez-vous sur vos plateformes de podcast préférées. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous donner les fameuses 5 étoiles pour ensemble exploser les algorithmes et faire rayonner les entrepreneurs. Bonjour à tous, nous avions eu le plaisir d'ouvrir la première saison de la première promo du Next 40 avec une femme entrepreneur, fondatrice de Frishti. Nous ouvrons cette deuxième saison pour cette deuxième promo du Next 40 avec une autre femme entrepreneur. Elles sont encore trop rares au Next 40 et c'est donc un plaisir de recevoir aujourd'hui avec mon compère Olivier Mathieu, Alix de Sagazan, cofondatrice d'AB Testi. Bonjour à vous. Deux.
Bonjour Thomas, bonjour Olivier, ravi d'être parmi vous aujourd'hui.
Eh ben bonjour Alix et merci d'être rendu disponible alors que tu es outre-Atlantique, donc en décalage horaire avec nous.
Ça va, il est pas trop tôt pour moi, tout va bien.
Tu l'as entendu Alix, hein, tu t'engages et c'était la promesse qu'on peut donner dans le jingle de répondre à toutes nos questions sans bullshit.
Oh mon Dieu, c'est bon, je suis prête.
On sent la pression qui monte.
Carrément.
Olivier, je te propose d'ouvrir le bal avec la fameuse présentation mathieutesque de notre invité.
Eh bien, carrément. Merci Thomas. Donc, je rappelle que Alix est donc la cofondatrice de AB Testi, qui a été créée, je crois, en 2009. Alors, j'ai un doute si c'est en 2008 ou 2009. Tu pourras nous le repréciser, Alix. Et c'était cofondé avec...
On a déposé les statuts le 9 décembre 2009, ouais.
D'accord. Donc, du coup, avec ton associé Rémi Aubert. Alors, techniquement, qu'est-ce que c'est qu'AB Testi? C'est une plateforme d'optimisation de l'expérience client. En général, vos interlocuteurs sont plutôt les équipes marketing, les équipes produits ou les équipes techniques. Et il s'agit de les aider à transformer les visiteurs sur le web, le mobile, ou différentes applications en client, donc d'optimiser ce qu'on appelle, dans notre jargon du web, le taux de transformation. Je rappelle aussi que vous avez levé 40 millions d'euros l'an dernier, en été 2020, donc c'est ce qu'on appelle une série C. En 2017, vous aviez déjà levé 17 millions d'euros, c'était une série B. Alors d'après mes calculs, vous avez en tout levé 64 millions d'euros depuis le début de AB Testi, donc ça c'est évidemment des grosses sommes. C'est ce qui est souvent une des caractéristiques d'ailleurs des startups qui font partie du Next 40, qu'on appelle des scale-up, hein, parce qu'elles ont dépassé le stade de startup, c'est qu'elles ont levé beaucoup d'argent. Donc tu vas pouvoir nous raconter qu'est-ce que vous faites avec tout cet argent. Entre autres, je précise quand même que vous avez lancé les États-Unis et que c'est pour ça que tu es outre-Atlantique, car tu as décidé d'aller vivre aux États-Unis, donc de vivre l'aventure, mais aussi de rendre crédible le lancement d'AB Testi sur le marché américain. Vous avez déjà ouvert plusieurs bureaux, je crois, aux États-Unis. Tu pourras nous le raconter. Je crois qu'on relève 10 bureaux partout dans le monde, près de 1000 clients et plus de 50% de votre chiffre d'affaires, voire 60% qui est réalisé hors de France. Est-ce que la présentation te semble conforme à la réalité d'AB Testi?
Alors écoute, la présentation est très bien. Merci Olivier, tu es bien renseigné. Juste, je corrige... Les montants de levée de fonds, parce qu'en fait, on communique en dollars et les 64 millions, c'est en dollars. Donc, ça fait un petit peu moins en euros.
D'accord.
Bon, on n'annulera pas l'invitation dans 40 millions de Next pour autant. Je te propose, Alix, juste après ce jingle, de revenir sur les débuts d'AB Testi avant de parler de la suite de vos ambitions. Pitch or mon pitch. Pitch or mon pitch. Les débuts d'AB Testi, c'est que ça s'appelait pas AB Testi. On était sur les bancs, Alix, avec ton associé Rémi, sur les bancs du même incubateur, l'incubateur d'Advancia. Et ça s'appelait Liwio.
Exactement, parce qu'en fait, on a démarré fin 2009 avec Rémi sur plutôt un modèle d'agence. On travaillait tous les deux dans des agences d'acquisition de trafic. Donc, comment ramener du monde sur les sites web. Et puis on avait cette frustration de une fois que les gens étaient sur le site, c'était bah, comment ça transforme, comment est-ce qu'ils se comportent, comment est-ce qu'on peut améliorer l'expérience utilisateur. Donc c'est sur ce constat-là qu'on a créé Liwio, une agence spécialisée en web analytics. Liwio, pour la petite histoire, c'était un nom que Rémi avait trouvé d'un chaman en Bolivie. Donc c'était en gros comment guérir les sites internet. Voilà, ça c'était le pitch d'origine. Et puis en fait, très rapidement, on a commencé à faire des missions pour nos clients et puis on s'est aperçu qu'il y avait des outils d'analytics qui étaient bien, il y avait Google Analytics, mais par contre, il n'y avait pas d'outils d'optimisation, c'est-à-dire bah, comment est-ce que j'agis sur, une fois que j'ai compris comment mes internautes se comportent, comment est-ce que j'agis sur mon site, comment est-ce que bah, je peux tester des idées, tester des nouvelles fonctionnalités, tester des messages, comment est-ce que je peux personnaliser l'expérience. Et puis, bah, peu à peu, entre 2011 et 2013, on a commencé à créer un outil, donc un A/B testing, pour vraiment redonner la main à toutes ces équipes digitales. On voyait Amazon à l'époque qui faisait un travail formidable. Ils faisaient plus de 100 tests par mois, bah, des personnalisations dans tous les sens. Hein. On a tous vécu l'expérience Amazon au début en se disant « Mais mon Dieu, c'est adapté à moi. » Et donc, on s'est dit bah, « Comment est-ce qu'on peut… faire profiter tous les sites de cette agilité et puis comment est-ce que tout le monde pourrait faire justement comme Amazon, donner une expérience unique aux utilisateurs et puis surtout redonner la main aux équipes digitales pour pouvoir agir sur leur site.
Est-ce que je t'interromps, excuse-moi Alix, mais est-ce que tu pourrais nous expliquer de la manière la plus simple possible qu'est-ce que c'est justement qu'un A/B testing ou d'ailleurs un testing avec plusieurs variables,
ouais.
qui est l'explication évidemment du nom A/B testing,
ouais.
Mais les gens qui sont spécialisés en marketing numérique et en interface client le savent bien maintenant, c'est popularisé. Mais comment est-ce que tu peux l'expliquer simplement?
Ouais, bien sûr. Bah, écoute, voilà, tu arrives sur une page, sur un site internet. Un A/B test, c'est bah, je vais tester, je vais mettre 50% de la population qui va voir une certaine image et puis 50% qui va voir une autre image sur le site et puis on va regarder comment est-ce que ça marche le mieux. Ou je sais pas, 50% qui vont voir un bouton avec marqué « j'achète » et puis 50% qui vont voir un bouton avec marqué « je réserve » et puis on regarde lequel des deux boutons marche le mieux. Voilà, c'est vraiment très, 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 très simple. Alors évidemment, on fait des choses beaucoup plus évoluées maintenant, mais au début, on a vraiment démarré en disant « bah en fait… dans un magasin physique, on peut pas justement, enfin, on peut tester un peu à la réaction des gens comment est-ce qu'on va présenter les produits, etc. Ce qui est génial sur le web, c'est qu'en fait, on va pouvoir présenter et puis on va pouvoir avoir de la data derrière qui va nous dire ce qui marche.
T'as deux boutiques en temps réel.
Exactement. T'as deux boutiques en temps réel.
Voire 10, voire 100, carrément.
Voilà.
Sur ce modèle de plateforme, enfin le pivot que vous avez fait en 2011-2013 explique peut-être que vous êtes aujourd'hui au Next 40. Vous auriez sûrement pas autant développé la boîte avec un modèle d'agence.
Bah bien sûr. En fait, on a commencé par faire des petites missions. Et puis on s'est dit bah il y a pas de modèle récurrent sur la mission sur les agences et puis surtout Rémi mon associé est un peu un autodidacte tech et puis avait commencé à travailler sur on a eu plusieurs idées en fait d'outils. On a commencé par un outil plutôt d'analytics et puis en fait très vite on s'est dit c'est bien l'analytics mais c'est pas assez actionnable. Et puis très vite on a recruté un développeur, on a eu cette idée justement de faire A/B testing et puis on a recruté très vite un développeur qui nous a développé ce qu'on appelle un minimum viable product
MVP, ouais.
Voilà un MVP qu'on a pu tester en fait sur les clients existants qu'on avait à l'agence. Donc en fait on a eu pendant 2 ans un espèce de modèle un peu hybride où on testait un petit peu l'outil avec nos clients. En même temps, on rentrait quand même des missions dans l'agence pour pouvoir vivre et puis se payer. Et puis derrière, on testait l'outil, et puis on l'améliorait pour ensuite pouvoir vraiment le vendre de manière, le vendre à des nouveaux clients quoi. Et donc on a vraiment pivoté. On va dire que en 2012. 2012, on avait encore agence et SaaS, et en 2013, on a carrément killé l'agence. Ça a été dur pour nous parce qu'on a dû donner quelques missions à nos anciens concurrents, mais en même temps, c'est le meilleur choix qu'on ait fait. Et puis derrière, on a, on a commencé à vendre uniquement la solution à partir de 2013.
Et notamment à vos anciens concurrents.
Excuse-moi, je faisais une mini parenthèse pour tout remettre ouais. Capello du web, mais quand on dit SaaS, je l'explique pour le plus grand public, hein, c'est le software as a service, c'est une façon donc de vendre un logiciel qui est disponible en ligne sans forcément avoir à le télécharger. Hein, donc le client en général paye une licence, ou, enfin, en tout cas il y a un modèle économique associé à la rémunération de l'éditeur de logiciel que vous êtes. Et donc c'est ça, c'est le logiciel comme service.
Exactement.
Et alors justement sur le modèle A/B testi actuel, et d'ailleurs peut-être qu'il a évolué et ce serait intéressant pour les auditeurs de comprendre en quoi et comment il a pu évoluer au fil des années, pardon. Aujourd'hui, c'est quoi le modèle? C'est de l'abonnement? C'est en fonction des campagnes qu'on met en place?
Exactement. Alors c'est un abonnement, donc ça peut être un abonnement sur un an, deux ans, trois ans. Et c'est alors encore plus simple que en fonction du nombre de campagnes, c'est plutôt en fonction de la volumétrie du site, donc de la taille du site. Et puis ensuite, après, ça dépend aussi des fonctionnalités que tu vas prendre. Donc, on fait, comme je vous avais dit, du test et puis aussi de la personnalisation. On a aussi, depuis un an, un outil dédié pour les développeurs et les product managers. Une plateforme en plus que nos clients peuvent acheter. Mais c'est surtout en fonction de la volumétrie du site. Et ensuite, par-dessus, quand on vend l'outil, il faut savoir évidemment le prendre en main. Donc, on a des Customer Success Managers qui onboardent nos clients, qui les éduquent à comprendre et utiliser la plateforme. Et puis, ils peuvent aussi acheter du service sur la plateforme qui va leur permettre de mettre en place un certain nombre de campagnes. L'idée, c'est souvent la première année, deuxième année, qu'ils puissent prendre du service et puis ensuite qu'ils soient le plus autonomes possible pour pouvoir eux-mêmes mettre en place leur campagne et puis les lancer eux-mêmes. On essaye de leur apporter toute l'expertise de nos consultants pour pouvoir monter en compétences.
Tu es allé assez vite sur le nouvel outil là, que vous avez développé.
Ouais.
Tu peux en dire un mot en plus ?
Ouais, bien sûr. Alors en fait, on a... historiquement, chez A/B testi, donc on a commencé, comme son nom l'indique, par l'A/B test. Très, très rapidement, on a développé toute la partie personnalisation. Donc, en fait, je suis un client qui… Alors, la personnalisation, ça couvre énormément de cas. Ça peut être géographique. Est-ce que je vais avoir un message différent si je suis à Lyon ou si je suis à Paris, par exemple? Ça peut être sur le nom, par rapport au nombre de fois où j'ai été sur le site, par rapport au nombre de fois où j'ai acheté. Donc tu es un ancien visiteur, tu es un nouveau visiteur, tu n'auras pas le même message. Donc, la personnalisation, c'est une grosse brique d'A/B testi. C'est même encore plus utilisé que l'A/B testing et que l'expérimentation. Donc ça c'est...
Et ça fait qu'un an, pardon, je te coupe.
Non, alors ça, excuse-moi, ça c'est la plateforme d'origine. On a commencé par l'A/B test, on a rajouté la personnalisation et on s'adressait aux équipes, beaucoup aux équipes marketing et puis un petit peu aux équipes produits qui ont commencé à se structurer, donc les équipes produits digitales qui ont commencé à se structurer depuis quelques années. Et puis on a commencé à avoir pas mal d'interlocuteurs justement produits et techniques dans nos meetings, et on a du coup développé pour eux une interface en fait qui leur permet donc plutôt aux développeurs et aux équipes produits pareil de faire du test et de l'expérimentation, sauf que ça va être beaucoup plus technique et beaucoup plus poussé. Donc j'ai pas envie de rentrer trop dans le jargon, mais on appelle ça du server side, c'est-à-dire que tu vas faire des modifications côté serveur. Donc ça va être des modifications beaucoup plus complexes. Par exemple, je suis quelqu'un du produit, je voudrais mettre en place une nouvelle fonctionnalité sur mon site. Je vais mettre d'abord 10% du trafic qui va voir ma fonctionnalité, je vais regarder si ça marche ou si ça marche pas. Et puis peu à peu, je vais pouvoir mettre ma fonctionnalité live sur mon site ou alors l'arrêter si elle marche pas. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on appelle du progressive rollout ou du feature flagging, mais bon, c'est un petit peu technique, donc j'ai pas du tout envie de rentrer dans le détail.
Je vois les oreilles d'Olivier qui se dressent.
C'est ça. Non mais voilà, donc je veux pas rentrer dans le détail, mais on va dire que c'est en fait pour faire la même chose, c'est pour expérimenter, pour tester, sauf que c'est un peu plus technique, un peu plus complexe, mais par contre, ça nous permet de nous adresser à une population de produits et de développeurs qu'on n'adressait pas vraiment avant.
Donc la première clé de succès, c'est ce pivot que vous avez fait en 2011-2013. Est-ce que parmi les autres clés de succès, tu mettrais les Big Boss? Je t'ai beaucoup croisé, puis toi, puis tes équipes. Mais sur cet événement orienté sales, marketing,
ouais.
Et j'ai le sentiment que vous avez aussi grandi. Alors, tu as peut-être d'autres clés de succès, mais je serais curieux d'avoir ton retour là-dessus.
Oui, alors les clés de succès, oui, il y en a plusieurs. En tout cas, c'est clair qu'on a très vite investi en marketing événementiel, on va dire. C'est-à-dire que très vite, bah alors quelque chose qu'on a perdu aujourd'hui depuis un an, mais on a beaucoup privilégié évidemment la relation client, et on a effectivement investi beaucoup dans les Big Boss. Donc là, on va faire la promo d'Hervé. C'est là où, même là où je t'ai rencontré, je crois, Olivier. Qui étaient des événements absolument formidables pour rencontrer à la fois des partenaires, d'autres prestataires comme nous avec lesquels on peut avoir des synergies, puis également de passer du temps avec des clients, comprendre leurs problématiques, et puis ensuite effectivement les rencontrer de manière plus formelle dans des rendez-vous. Mais c'est vrai que les Big Boss, bah voilà, c'était un format où on partait au ski ou ou à la plage tous ensemble, et puis on travaillait un petit peu et puis on s'amusait bien. Et c'était effectivement une bonne manière,
puis tu revenais avec des contrats, ouais.
Ouais, de rencontrer l'écosystème. Et il y a quelques événements comme ça sur lesquels on a investi dès le début qui effectivement ont permis de faire grandir notre base client en France surtout, évidemment, parce qu'après il y a l'international qui est un sacré challenge, mais en tout cas ça a permis de bien faire grandir notre base client en France.
Pour avoir une idée de ratio, vous mettiez combien de budget à peu près sur ces sujets événementiels par rapport au chiffre d'affaires? Enfin, je sais pas si vous le rationalisez
à l'époque. Alors pour te donner un ordre d'idée, les coûts marketing chez ABTesti par rapport au chiffre d'affaires. Aujourd'hui, c'est les salaires plus tous les événements qu'on fait. On est à 13%. On est à 13% du chiffre. On était plutôt à l'époque, au début, plutôt autour de 18%.
Tu disais qu'il y avait d'autres clés de succès?
Bah écoute, nous...
On a envie de connaître vos recettes.
Non, mais nous, en fait, ce qu'on a fait... Alors, sur le marketing, effectivement, on a fait beaucoup d'événementiels. Après, on a été un petit peu moins bons sur la partie online. Par contre, moi, je pense que ce qui a vraiment fait décoller, nous a vraiment fait décoller en France, c'est alors la valeur numéro un chez ABTesti, c'est la satisfaction client. Ça a été vraiment de toujours mettre le client et les problématiques clients au cœur de tout. On a tout de suite construit une équipe de customer success, j'en parlais tout à l'heure, dès le début, sans se dire, voilà, on va leur filer une solution et puis derrière ils se débrouilleront. Au contraire, on a toujours essayé de les accompagner, de les onboarder et puis de leur faire un suivi très, 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 très poussé. Et en fait, on a eu une équipe de customer success absolument formidable dès le démarrage. Ce qui fait que, après, tu sais, ça se fait assez naturellement puisque les clients sont contents et puis le bouche à oreille prend bien. Justement, dans des événements comme les Big Boss, tout le monde se parle entre eux. Et donc, à partir du moment où tu es content et que tu as une solution qui te rapporte, et qu'en plus de ça, ça t'aide à grandir et à mieux faire ton métier, normalement, derrière, ça marche bien. Donc, je dirais vraiment que toujours mettre le client, la customer satisfaction au centre de tout, ça a été pour moi la chose la plus importante. Et puis, aujourd'hui encore, on a sur un de dans notre outil interne Slack, on a un channel où tous les jours, on voit les notes que donnent les clients à l'interface. Et tous les jours, toute la boîte voit la note et voit les commentaires des clients sur l'interface, sur le service, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important pour nous.
Et je me posais une question, il y a deux questions, mais je vais commencer par la première dans l'ordre chronologique. Au moment où vous avez opéré finalement ce pivot de passer d'agence à produit, d'une certaine manière, à logiciel, vous avez ça a été une décision progressive parce que vous avez testé l'outil comme tu le disais,
ouais.
En mode agence, mais à un moment donné c'est quelque chose que vous êtes allé présenter aussi à vos actionnaires et à vos équipes. Est-ce que ça a été un bouleversement, parce qu'on parle beaucoup de pivot, le mot pivot dans les startups c'est très utilisé, c'est-à-dire une modification, une nouvelle orientation dans le modèle d'affaires, dans le business model, dans la technologie, mais j'imagine que ça a dû engranger quand même des choix stratégiques, y compris des changements dans l'équipe.
Ouais, alors, en fait, ce qui est marrant, c'est que quand on a fait ça, c'était en 2012-2013. Et alors, mine de rien, le paysage a quand même beaucoup changé, hein, des startups depuis. J'ai l'impression d'être super vieille quand je dis ça. Mais je trouve qu'aujourd'hui, tout est beaucoup plus normé. Et quand on crée une boîte, on a beaucoup plus en tête ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, etc. Parce qu'il y a beaucoup plus de playbook qu'il y avait en 2012-2013. Et en fait, nous, à l'époque, en fait, on n'avait tout simplement pas d'actionnaires puisque c'était une agence, et que on a du coup, en fait, avec ce qu'on gagnait sur l'agence, on le mettait dans le logiciel. Et du coup, quand on a fait notre première levée de fonds, donc en 2013, on n'était plus que logiciel, et quand on a fait notre première levée de fonds en 2014, en fait, on était rentable, on avait déjà un certain chiffre d'affaires. Et c'est à ce moment-là qu'on a fait rentrer des actionnaires, mais on n'a pas eu d'actionnaires avant. Donc en fait, le choix stratégique, quand on l'a fait de pivoter, on était tout petit, on était une agence, on était cinq, donc ça n'a pas été très compliqué. Il n'y a pas eu vraiment de. En gros, avec Rémi, on s'est dit, bah voilà, qu'est-ce qu'on fait? On fait encore quelques missions histoire que on arrive à avoir un petit peu d'argent pour voilà pour nous payer. Et puis à partir du moment où on commence à bien vendre l'outil, on s'était mis quelques objectifs. Là, on arrêtera l'agence. Et puis ça s'est fait assez naturellement en fait, puisque notre premier client, on l'a eu en 2013, je crois. C'était Photobox. C'était un contrat à 4 ou 5 000 euros par mois. Donc ça nous permettait de payer une personne. Et puis ensuite, on en a eu un deuxième. Et puis ensuite, on a itéré comme ça. Quand on a fait notre première levée de fonds en 2014, on était 8 ou 9, quelque chose comme ça. Et on avait déjà ce qu'on appelle un monthly recurring revenu, un revenu mensuel de 70 000 euros par mois.
Alors moi, je continue à me poser un peu les questions dans l'ordre chronologique parce que ce que j'aime bien, c'est décrypter aussi les décisions
Ouais.
entrepreneuriales et qu'est-ce qui fait qu'on prend telle ou telle décision d'orientation. Et donc, je fais un grand bond jusqu'à 2017, puisque là, on a compris bien ce pivot et je trouve que tu l'expliques avec des mots simples. Donc, ça nous permet de donner l'exemple un petit peu à tous ceux qui aimeraient devenir entrepreneurs. Il y en a un autre qui me semble très important, même si je saute un peu des années, qui est celui du tournant vers l'international, parce que c'est une des décisions
Ouais.
assez fortes que vous avez prises. Je crois comprendre que c'est en 2017, et tu me corrigeras un peu dans la chronologie, puisque vous avez fait une levée de fonds importante à ce moment-là, 17 millions. Alors, je sais pas, est-ce que c'est en dollars ou en euros, du coup, parce que je me suis
Ça, c'était des dollars aussi.
en
Ouais, c'était des
vérifié 17
dollars.
millions de dollars, avec
Ouais.
notamment donc une thèse d'investissement, une stratégie d'investissement qui était de partir aux États-Unis. Alors, comment est-ce qu'on décide et comment est-ce qu'on prend cette décision qui a en plus été assez radicale puisque tu as pris aussi tes valises avec toi?
Ouais, en fait, juste pour te redonner la chronologie, donc on a fait notre première levée de fonds en 2014 qui nous a permis de développer la France, de recruter 25 personnes à peu près sur la France. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est que j'avais une petite équipe internationale qui, depuis Paris, opérait sur les pays européens, donc UK, Allemagne et Espagne. Et en fait, depuis Paris, on a réussi à signer quelques contrats au UK, en Allemagne et en Espagne. Et on s'est dit, bah, à partir du moment où on réussit à avoir trois contrats et un certain niveau de chiffre d'affaires dans ces pays-là, on va investir et puis on va envoyer une équipe go-to-market. Et donc, en gros, en 2015, début 2016, on a commencé à avoir quelques contrats dans ces pays-là. Ce qui fait qu'en fait, on a fait notre série A de 5 millions en 2016, qui était avant celle de 16 millions en 2017, nous a permis, en fait, courant 2016, d'ouvrir le UK, l'Allemagne et l'Espagne. Donc, nous, on a commencé, le parti pris qu'on a eu, ça a été de commencer par l'Europe. On a ouvert trois pays en 2016, donc suite à notre levée qu'on a fait en janvier. On a recruté, donc quand je parle des équipes go-to-market, c'est très simple. C'est une équipe avec une personne qui fait du marketing pour donner de la visibilité, une personne qui fait de la vente, qui vend l'outil, et nos fameux CSM, Customer Success, qui sont là pour accompagner les clients en local. Parce que on est sur des alors nous on est sur des paniers mid-market, ce qu'on appelle mid-market et enterprise, c'est-à-dire que on vend pas la solution à moins de 20 000 dollars par an. Donc c'est quand même assez significatif, ce qui fait qu'il faut souvent rencontrer le client, donc il faut être local. C'est pas le cas de toutes les boîtes. Il y a des boîtes qui peuvent tout développer depuis Paris parce qu'ils font du small business. Nous, à partir du moment où tu t'adresses à des gros comptes ou à des moyennes entreprises. Il faut voir le client, donc il faut du vendeur local et du customer success local.
Ouais, ça, quand tu parles de relations clients au cœur de la boîte, effectivement, à un moment, c'est bien de se parler, de se voir. Tu parlais des... Parce que maintenant, il y a pas que l'Allemagne, les UK et l'Espagne. Est-ce qu'il y a des pays sur lesquels vous êtes planté ou finalement, l'expérience a été plus compliquée, plus difficile, plus lente?
Ouais, en fait, ce qu'on a aussi essayé d'être ouvert aux opportunités, et on a eu une opportunité parce qu'on avait quelqu'un qu'on connaissait qui était parti en Australie, de développer l'Australie. Et ça, c'était le premier pays qu'on a ouvert même avant, c'était même en 2015, parce que voilà, plutôt par opportunité et parce qu'il y avait quelqu'un qui pouvait le faire. C'est pas une bonne idée de développer l'Australie, qui est un marché à l'autre bout du monde, qui en plus est un petit pays, parce que
c'est pas une bonne idée en général, ou c'était pas une bonne idée pour vous?
Non,
ou
bah c'était pas
pour
une...
vous, comment vous l'avez fait?
C'était pas une bonne idée pour nous, parce que le modèle qu'on avait fait était pas le bon, parce que c'était trop loin, parce que c'était un trop petit pays, et parce que on n'avait pas assez de temps à y consacrer. Et c'est un peu ça, pour répondre à la question d'Olivier là ensuite sur les US, parce qu'ensuite on est donc la levée de 2017, comme disait Olivier là, de 17 millions de dollars, 16 millions d'euros. Cette levée là, on s'est dit on va. Alors on a fait exactement la même chose que je vous ai expliqué pour les autres pays, c'est-à-dire qu'en fait on a une personne qui a développé les US depuis Paris. Et oui, en fait, mon associé Rémi est parti quelques mois aux US en 2016 pour justement un petit peu sentir le marché avec deux personnes de chez nous. Ils sont ensuite tous revenus au bout de 2 mois. Ils ont réussi, enfin, les deux personnes qui étaient parties là-bas ont réussi à signer quelques clients depuis la France. Et on s'était dit, en gros, si on arrive à signer quelques clients aux US depuis la France, en ayant évidemment créé une structure aux US, etc., eh ben, on lèvera des fonds et puis on ouvrira là-bas. Et donc, c'est ce qui s'est passé. En fait, quand on a fait notre levée en 2017, on avait réussi à signer 3 ou 4 clients aux États-Unis. Donc, on avait prouvé qu'il y avait un besoin à marché. Et puis, effectivement, là, on s'est dit, on va aller attaquer le marché américain. Et je suis partie l'année d'après. Donc, je suis partie en septembre 2018 pour développer le marché américain. Et donc... Il y a une grosse question.
Va pas trop vite, pardonne-moi, je te coupe, mais on a pas mal de questions, nos partenaires, des questions surprises sur ce sujet très spécifiquement.
Ouais.
Je te propose d'en écouter deux à la suite et on va rester sur la partie US et j'ai une question aussi sur Singapour que je te passerai après.
Yes.
Vous avez un message.
Bonjour Alix, vous êtes deux cofondateurs de cette super boîte, Alix et Rémi. Il y en a un qui a fait le choix de vivre sur un autre continent en partant aux États-Unis. Qu'est-ce que ça fait d'avoir deux cofondateurs qui ne vivent pas sur le même fuseau horaire? Comment est-ce qu'on organise la boîte? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous conseillez aux autres entrepreneurs qui se retrouvent dans cette situation?
C'est qui ça la question?
Nicolas Brienne, France Digital.
D'accord. Alors déjà pour la petite histoire, ce qui est très drôle, c'est qu'à la base, on est deux cofondateurs et en fait Rémi voulait partir aux États-Unis et moi je voulais pas y aller. Donc ça c'est un peu drôle parce que
c'est pour ça que c'était lui qui était parti au départ.
Exactement. Et en fait après la levée en 2017, on a levé des fonds en mai. Moi je suis partie, j'ai eu ma petite fille. Juste après la levée de fonds, je suis partie en congé maternité pendant 3 mois. Et puis ensuite, il était entendu que vers septembre-octobre, Rémi partirait aux États-Unis. Sauf qu'en fait, je reviens en septembre, après mon congé maternité. Et puis là, il y avait eu 3 mois où j'avais été pas trop là. Il y avait eu pas mal de choses un petit peu compliquées à gérer. Et donc j'avais dit à Rémi, mais là tu peux pas partir maintenant parce que c'est pas le bon moment. On va reporter un petit peu à décembre. Et puis Rémi me dit, mais non, en fait, je pense qu'il faut qu'on parte tous les deux. Je lui dis, mais non, on va pas partir tous les deux. ça va pas le faire. On va pas y arriver. Enfin bref, on a commencé à pas y voir clair en fait sur qu'est-ce qu'il fallait faire et j'ai fait alors truc exceptionnel, non, ça faisait déjà 2 ans qu'on avait un coach avec Rémi qui nous accompagnait justement sur les prises de décision et là j'ai trouvé un autre coach que j'ai appelé et j'ai dit écoute voilà on a une problématique où on n'arrive pas à s'entendre sur quand on part, qui part, comment on part on a besoin d'y voir clair. Et donc on a passé une journée avec cette personne qui nous a ouvert les yeux, hein. C'est bien parfois d'avoir sur des évidences que parfois tu ne vois pas toi, mais que les personnes externes peuvent voir. Et puis on s'est dit, bah finalement le business, donc juste pour aussi parce que j'avais pas précisé comment est-ce qu'on se répartit le travail avec Rémi. Rémi, c'est quelqu'un qui est autodidacte tech, donc il gère toute la partie produit et tech. Et moi je gère toute la partie business, donc marketing et vente. Et on s'est dit, bah quand même pour aller aux US, c'est quand même un peu plus logique que ça soit la personne qui gère
le marketing et la
vente,
ouais.
Qui aille. et puis en plus de ça, il y avait pas mal de problématiques sur la partie technique à cette époque-là, sur le leadership, etc. Donc on s'est dit, c'est peut-être pas très judicieux que ce soit Rémi qui parte alors que toutes les équipes tech et R&D sont à Paris. Ce qui était en fait assez évident, mais il y avait aussi la volonté de l'un et la volonté de l'autre. Moi, je venais d'avoir
un bébé, j'avais pas envie de partir. Vie, ouais.
Voilà,
ouais.
Non, mais c'est ça. Moi, j'avais mon mari qui était très content dans son boulot, mais je venais d'avoir mon deuxième enfant, j'avais pas du tout envie de bouger. Et lui, lui et sa femme, ils avaient envie de bouger. Sa femme pouvait aller bosser aux US. Enfin, il y avait toutes les planètes s'alignaient dans... Voilà, donc on a été obligé de complètement désaligner toutes les planètes. Et puis j'ai dit, moi j'ai besoin d'un peu plus de temps parce qu'il faut que je trouve des gens pour prendre le relais en fait sur le business en Europe. Donc il faut que je trouve des leaders pour l'Europe. Et donc c'est comme ça que j'ai recruté un general manager Europe, une directrice marketing, un directeur commercial, un directeur customer success, parce que on avait aussi une problématique, c'est qu'on était 120 et on n'avait pas vraiment de top management expérimenté. Donc c'était aussi bon, bref, on n'avait pas été assez vite sur certaines choses. Donc, j'ai dit, OK, je veux bien partir. Donc, ça, c'était à la fin de l'année 2017. Mais par contre, il faut que j'ai du monde pour prendre le relais avant de partir. Donc, c'est comme ça qu'on a constitué notre leadership team début 2018 et que moi, je suis partie à la fin de l'été 2018 pour les États-Unis. Mais ça a été une décision compliquée. Et donc, pour répondre à Nicolas, puisque maintenant, ça fait 2 ans et demi que c'est comme ça, moi je trouve que c'est vraiment génial d'avoir justement un associé sur chaque continent. Le marché américain, c'est quand même plus ça va et plus je me dis que c'est un marché absolument extraordinaire parce qu'il est énorme, parce qu'il est homogène, pour énormément de raisons. Et justement d'avoir Rémi qui peut gérer la France et puis moi qui peux me concentrer sur le développement américain, puis je gère encore le développement des autres pays en Europe, mais j'ai des très bons relais locaux. Fait que moi je pense que c'est au contraire une force pour la boîte. Et puis après dans la dynamique, alors bon là il y a eu en plus le Covid qui est arrivé, mais dans la dynamique on a dans notre agenda 2 fois par semaine où on passe 1 heure tous les deux de manière structurée, et puis ensuite on va savoir par Slack, par WhatsApp tous les jours, quoi. Donc voilà, on est en contact permanent.
Et pour les grandes prises de décision, du coup, vous faites les coachings en visio ?
Alors, pour les grandes prises de décision, donc déjà, nous deux, on se voit, on a au moins 2 heures par semaine à deux. On a effectivement, on a continué de travailler avec notre coach, qu'on voit une fois tous les 2 ou 3 mois, qui nous accompagne sur certaines décisions stratégiques. Et puis, on a aussi notre board, bien évidemment, qu'on voit une fois par trimestre pour les décisions stratégiques. Et puis, on a aussi une équipe maintenant rapprochée. Pas vraiment, on n'appelle pas ça vraiment un comex chez nous, mais voilà, on prend aussi les décisions avec les équipes.
On reste sur l'international avec cette question d'Anne Taffin de Madines.
Vous avez un message.
Bonjour, vous vous êtes lancé à Singapour en 2018. Est-ce que c'est un marché difficile à conquérir et comment vous y êtes-vous pris pour y arriver ?
Alors, on a effectivement... Alors, Singapour, c'était fin de l'année 2018. Alors, je reprends ma go-to-market stratégie, ça a été exactement la même que pour les autres pays, c'est-à-dire qu'on a commencé depuis la France. Donc, on a 2 personnes chez nous, Julia et Edouard, qui ont émis le souhait de partir en Asie, qui étaient chez AB Testi depuis 2 ou 3 ans chacun. Donc, elle, vendeuse, et lui, Customer Success Manager, donc une parfaite équipe go-to-market. Ils ont été faire aussi, pareil, un programme d'onboarding en Asie. Ils sont revenus. Ils ont réussi à signer quelques clients depuis la France. Et on leur avait dit, à partir du moment où vous signez tant de clients et que vous avez tant de chiffre d'affaires, vous pouvez partir. Et donc, ils sont partis fin 2018, début 2019. Singapour est un marché, moi, que je trouve assez compliqué parce que C'est un marché où il y a plein de géographies, donc c'est un peu comme l'Europe, c'est très morcelé, plein de pays différents, et puis c'est je vais en APAC, qu'est-ce que j'attaque, est-ce que je vais en Chine, est-ce que je vais au Japon, est-ce que je vais à Singapour, est-ce que je vais en Australie, est-ce que je, enfin voilà, on s'est posé énormément de questions. On s'est finalement concentré là sur Singapour, Australie et Hong Kong, vraiment sur trois régions. On a une petite équipe de 7 personnes là-bas, qui marche bien, qui est à Singapour et puis qui va aussi, il va y avoir quelques personnes en Australie. Donc maintenant, on se partage entre l'Australie et Singapour. Voilà, donc c'est un marché où en fait, il faut se concentrer parce qu'on peut vite partir sur plein de choses, plein de géographies et perdre beaucoup de temps. Et c'est un marché qu'on essaye aussi d'attaquer, entre guillemets. On a quelqu'un qui est responsable des partenariats et on essaye aussi de passer par les partenariats à travers un système de revendeurs dans les pays où on n'est pas présent. Parce que on ne peut pas ouvrir des bureaux dans chacun de ces pays. Donc, c'est pour ça qu'on s'est concentré sur seulement deux géographies.
Olivier.
Oui, et du coup, ce qui est moi, ça serait peut-être aussi intéressant de, puisqu'on est, quand même dans cette période de crise. Tu vas parler. Est-ce qu'on peut se permettre d'envoyer un petit jingle, peut-être, du coup, Thomas? Tu connais ma passion de jingle.
Je sais que je vous demande de rester chez vous. Je vous demande aussi de garder le calme chez vous, chez vous, chez vous. Je pense que c'est important dans les moments que nous vivons.
Alors, au moment où on enregistre ton podcast, Alix, on est en plein confinement ou reconfinement, et quand les gens écouteront en 2050 le podcast d'Alix, ils diront après le 32e confinement, ils
étaient au début. Beau placement de produit, Olivier.
Absolument.
Parce que j'ai oublié de le préciser, pardonne-moi, je te coupe, Olivier, mais j'ai oublié de changer le jingle d'intro en te présentant.
Bravo, Olivier,
aussi bah maintenant.
Oui, le nouveau poste d'Olivier.
Exactement. Merci. Pour 2050 avec Marie Eklund.
Félicitations. On a vu ça dans la presse. Ouais, c'est top, c'est génial.
Je deviens investisseur, mais du coup, je continue de m'intéresser aux questions d'innovation et start-up, et ça reste une sorte de vocation pour moi. Et donc, c'est très cohérent avec le podcast 40 nuances de Next. Et dans ce contexte qui nous pose plein de questions sur nos façons de travailler, nos façons de vivre, etc., tu as un point de vue peut-être particulièrement intéressant parce que vous êtes multi-géographie. Et... à un moment donné, quand le confinement déclaré par Emmanuel Macron le 16 mars de l'an dernier ou le reconfinement aujourd'hui, ça concerne la France, mais quand toi tu es aux États-Unis et puis par ailleurs dans d'autres géographies avec le reste de tes équipes, tu as un point de vue ou un regard ou un poste d'observation peut-être, et ça m'intéresserait moi de l'entendre. Qu'est-ce que ça change pour une entreprise comme la vôtre?
Bah écoute, pour le coup, on a alors c'est... Je dirais qu'entre l'Europe et les États-Unis, déjà, je trouve qu'il n'y a pas la même culture à la base de télétravail. Nous, aux US, on est. Alors, j'ai essayé de recruter un maximum de gens sur New York parce que moi, je suis basée à New York et que je pense que c'est intéressant, c'est important d'avoir des interactions. Mais après, on a des gens un petit peu partout aux US. Hein. On a des gens. On a des gens dans le Colorado, on a des gens sur la côte ouest à San Francisco, des gens à Atlanta. Donc, on est déjà hyper répartis. Et on va dire que j'ai trouvé que le confinement et puis le passage au télétravail, j'ai l'impression, a été moins difficile, entre guillemets, pour les Américains qui sont un petit peu plus habitués à travailler à distance que pour les Français. Puis je pense que ça dépend aussi des personnalités des gens, hein, tout simplement. Mais en tout cas, nous, ça a été une transition... qui je pense au début un petit peu comme tout le monde les 3-4 premiers mois là du confinement de l'année dernière, ça a été un petit peu un choc, mais tout le monde s'est adapté, tout le monde s'est mis un peu en mode guerre, on va y arriver, et puis on a réussi à mettre en place plein de choses et ça a plutôt bien marché. Et puis bah au bout d'un an, je pense que c'est le même constat que tout le monde, on arrive un petit peu à une lassitude, les gens ont un peu ras-le-bol d'être chez eux, tout le monde se dit bon bah le télétravail c'est sympa mais pas non plus à grosse dose. Donc là on est en train d'écrire justement nos règles de télétravail, on est en train voilà de qu'on va diffuser bientôt sur bah voilà tu peux travailler.
Bon, aujourd'hui vous êtes combien dans l'effectif de la société, vous êtes combien au total?
On est 230.
Et combien sont en France?
Bah, la majorité sont en France, puisqu'à chaque fois, mes équipes go-to-market dans les pays, c'est entre, aux US, on est 20, mais sinon, c'est plutôt entre 10 et 15 personnes. Donc, 170 sur la France, quelque chose comme ça, et puis 70 répartis dans les différentes géographies à peu près, quoi.
D'accord, mais du coup, bon, effectivement, le bureau parisien a l'habitude de travailler ensemble en présentiel, d'une certaine manière, en physique, mais il y a aussi une habitude de travailler à distance pour les autres. La question que je me demandais, moi, c'est dans les métiers tels que les vôtres, il y a quand même du logiciel, et donc je pense beaucoup de gens qui finalement travaillent devant des écrans. On a tendance à dire que c'est peut-être plus facile de faire du télétravail que dans des cultures plus industrielles, etc.
Non, mais bien sûr, moi je pense qu'on fait partie des entreprises qui ont été les moins touchées, entre guillemets. Hein. Ce qui nous touche tous, et puis dans tous les pays, c'est de ne pas beaucoup voir tes collègues, et puis de ne pas avoir cet esprit de bureau, évidemment. Après, ton travail, tu peux le faire sans aucun problème depuis chez toi. Et puis encore une fois, on est aussi dans des métiers du digital. Donc évidemment qu'on a été un petit peu impacté par la crise, un peu comme tout le monde l'année dernière, mais le business est reparti très vite. Et puis derrière, on n'a pas, c'est pas comme les gens du voyage qui vont perdre du chiffre d'affaires, etc. Nous, on n'a rien perdu du tout. Donc on n'a pas été, par rapport à cette crise, on était impacté, bien évidemment, comme tout le monde, mais dans une bien moindre mesure.
En fait, il y a aussi une autre question qui est celle un peu du business en période de crise, parce qu'évidemment, on parle beaucoup du risque sanitaire, du risque aussi un peu social et parfois un peu compliqué sur le plan psychologique, mais bon, bien entendu, nous, on parle aussi beaucoup d'économie dans 40 millions de Next. Et quand on regarde l'angle un peu business, je me suis posé une question en préparant ton podcast qui était de dire finalement, d'un côté, probablement le e-commerce a explosé.
Ouais.
Et or, vous avez beaucoup de clients qui sont dans le e-commerce. Donc, d'une certaine manière, forcément, quand on ferme les magasins, il y a une grande partie des actes de consommation qui se reportent sur les mobiles et les ordinateurs et sur le e-commerce. Donc ça, ce serait plutôt positif. Mais d'un autre côté, je me suis dit aussi que peut-être les solutions logicielles sont moins prioritaires dans les dépenses de vos clients potentiellement. Qui doivent peut-être penser à d'autres choses à ce moment-là. Donc, quelle est la réalité, en fait, commerciale ?
Ouais, bah, la réalité commerciale, écoute, elle a été très simple. Le confinement est arrivé partout dans le monde, hein, parce qu'aux États-Unis, c'était exactement en même temps, c'était autour du 15 mars. Et nous, tu sais, on est en quarter. Donc, en fait, on signe souvent beaucoup, beaucoup de business en fin de quarter. Donc, c'était fin mars. Et en fait, tout ce qui devait se signer sur fin mars, en fait, a été... Alors, c'était intéressant dans nos chiffres parce que c'était pas annulé, c'était reporté. Donc reporté. Voilà, donc ouais. Tout a été frisé fin mars. Donc en fait, on a fait du coup un chiffre bien moins important que ce qu'on avait prévu. Le quarter d'après, les gens commençaient à avoir un petit peu plus de visibilité. Donc on a quand même réussi à se maintenir en termes de signature. Par contre, on a 10% de nos clients dans le voyage. Où là ils en ont pas mal souffert, ils nous ont dit est-ce que on peut faire une pause sur le contrat, enfin voilà, on a essayé de s'adapter un maximum à nos clients et puis surtout de les accompagner dans cette période de crise, mais évidemment ça a un petit peu impacté notre business et puis quelques clients qui mettaient la clé sous la porte aussi, donc tu perds des contrats. Donc ça a été le Q2, le quarter 2 qui s'est terminé en juin, qui du coup a été un petit peu mitigé, mais on va dire que ça allait à peu près. Par contre, pendant ce quarter-là, c'est pareil, hein, comme tu dis, les gens ont quand même un petit peu reporté leur projet d'achat de SaaS, n'ayant pas trop de visibilité. Et surtout, nous, on fonctionne avec ce qu'on appelle le pipeline, c'est-à-dire les marques d'intérêt et est-ce que, combien j'ai de nouveaux potentiels contrats qui pourraient arriver. Et ça, pour le coup, ça s'est beaucoup réduit pendant cette période-là d'incertitude, ce qui fait que le quarter d'après, donc jusqu'à septembre, celui-là, il a carrément été pas bon, parce qu'en fait, les pipelines s'étaient pas bien remplis sur le quarter d'avant.
Et puis ensuite, aussi parce que vous faisiez moins d'événementiel, j'imagine.
Et voilà, évidemment, il y avait moins d'événementiel. Tu fais de l'événementiel sur du digital, mais évidemment, c'est pas du tout pareil.
Ouais.
Donc en fait, tout ça, ça a impacté. Donc on a eu vraiment deux quarters très impactés. Et puis ensuite, il y a eu l'été où là, ça a commencé à revenir. On a commencé à maîtriser et à peu près, même si on navigue encore à vue, voir à peu près comment ça se passait. Les sites ont commencé à voir que en fait, ils avaient vachement, les sites e-commerce, il y a pas mal de business qui en ont vachement profité. Et puis là, à partir de septembre, l'activité a complètement repris. On a fait un super Q4 donc, qui s'est terminé en décembre. Et puis là, on vient de terminer ce quarter-là qui a été notre meilleur qu'on n'a jamais fait. Donc, l'activité, pour moi, est complètement repartie à partir d'octobre.
Oui, non, moi, c'était ma question. Elle était un peu plus toujours sur l'aspect un peu business, mais le télétravail, ça fait évidemment partie des grandes conditions qu'on se pose, des questions qu'on se pose dans ce contexte. Mais je me demandais, en fait, si techniquement, après, on voit, du fait du report un peu du chiffre d'affaires du commerce physique vers le e-commerce, est-ce qu'on voit à travers vos outils, les outils d'AB Testi, est-ce qu'on voit que il y a aussi des changements de comportement, des choses un peu différentes, des enseignements qui seront peut-être soit marrants, soit juste intéressants. Et est-ce que, par exemple, je me suis posé la question, est-ce que ça fait gonfler les prix et monter les prix? Et est-ce que les commerçants peuvent utiliser votre outil pour aussi tester, tu vois, A-B tester, en fait, les prix, le taux de transformation associé?
Ouais.
Parce qu'on peut se dire qu'il y a un effet d'offre et de demande et que ça peut être inflationniste, peut-être.
Ouais, alors ça, on l'a pas forcément vu. Ce qui était plutôt intéressant sur les comportements au moment, du confinement l'année dernière, c'est que nous, les deux semaines qui ont suivi le confinement, on a eu le plus gros taux d'usage de notre outil qu'on a jamais eu, parce qu'en fait, ils ont utilisé toutes les équipes e-commerce ou toutes les équipes digitales en général ont utilisé A/B Testi pour mettre en place des messages d'urgence de je sais pas, on pourra pas livrer pendant deux semaines, ou de on ferme nos boutiques parce que voilà, on a tout dans la plateforme, tout un aspect de petits outils où on peut rapidement mettre des messages, modifier les choses sur le site, ce qui fait qu'en fait on a eu un usage de la plateforme pendant 2-3 semaines complètement hallucinant, qui a complètement explosé. Donc on s'est dit bon bah c'est chouette, au moins pendant le on est très utile. Donc ça a été voilà, ça a été ça qui a été un peu marrant et qui a été quelque chose auquel on s'attendait pas du tout, parce qu'en fait du coup nos CSM ont été débordés de boulot. Et tu sais, il y avait les questions de chômage partiel à cette époque-là. Et en fait, ils nous disaient, mais attendez, là, on a un boulot de dingue, quoi. Donc voilà, on a eu vraiment... Et d'un côté, tu avais les vendeurs qui, du coup, en avaient un petit peu moins parce que tout était bloqué. Puis de l'autre côté, finalement, les CSM qui en avaient vachement besoin. Enfin, qui avaient vachement de boulot, pardon. Donc c'était un peu... Et puis les talent acquisition aussi sur le recrutement, bah, on a un peu tout gelé, parce que quand tu vois plus trop ce qui va se passer, tu fais attention. Donc tu te retrouves avec des équipes qui ont moins de travail et puis des équipes qui sont surchargées. C'est un peu bizarre.
Tu évoquais tout à l'heure, Alix, des règles à mettre en place que vous allez bientôt annoncer sur le télétravail. Pourquoi c'est important de fixer ces règles?
Bon, c'est très important parce que je pense que les gens, ils ont envie de savoir. Je vais dire des généralités, mais bon, tout le monde a réalisé plein de choses avec cette nouvelle vie. Il y a des gens qui veulent faire carrément des resets de vie après tout ça. Tout le monde voit les choses complètement différemment. Les gens veulent plus venir au boulot toute la semaine, veulent plus perdre de temps dans les transports. Mais en même temps, t'as quand même envie de voir tes collègues, t'as quand même envie de faire des réunions, t'as quand même envie d'avoir des interactions humaines. Donc voilà, c'est comment trouver quelque chose qui convienne à tout le monde et qui soit bon pour l'entreprise et bon pour les collaborateurs. Et selon les pays, les réactions ne sont pas tout à fait les mêmes. En France et en Europe, je pense qu'on va passer à un modèle, on passe à un modèle un peu hybride avec quelques personnes qui seront en full remote. Aux US, de toute façon, par définition, j'avais déjà des gens en full remote, en fait, qui habitent dans d'autres villes. Ce qu'on privilégie beaucoup, et ce qu'on va privilégier quand ça sera possible, ça sera énormément de off-site ou de meetings où tout le monde se réunit une fois par quarter. Pour passer du temps sympa ensemble aussi, parce que c'est ça qui est important.
Eh ben justement, parlons de l'avenir. I have a dream. On va pas te demander un discours à la Martin Luther King, Alix.
C'était notre musique, I have a dream, cette musique-là, c'était notre musique de notre séminaire il y a 2 ans, 3 ans.
Ouais, avec Carl Cox qui remixait, non, c'est pas
ouais,
ça.
Ouais, c'est ça exactement. Non, mais c'était notre musique, on l'a mis tout pendant tout le séminaire, c'est marrant.
Et alors, vous rêviez de quoi chez A/B Testi?
Nous, on rêve de la Lune, hein. On rêve de devenir les leaders mondiaux, bien évidemment.
Et est-ce que ce rêve d'ambition, il est modifié par une crise telle qu'on la traverse? Est-ce qu'il y a des questions de sens qui viennent s'ajouter à celles que vous aviez auparavant? Parce que finalement, on voit que nos conditions de travail ont modifié, peut-être nos conditions de consommation, etc. Alors, c'est peut-être des opportunités,
ouais.
Mais aussi parfois peut-être des nouvelles menaces qui apparaissent.
Bah, écoute, on est sur une trajectoire. Déjà, la question de l'ambition, elle est très intéressante parce qu'elle grandit beaucoup avec le temps. Et elle se modifie un petit peu selon pas mal de choses. Hein. Au tout début, je m'en rappelle quand on a démarré, qu'on était une dizaine et qu'on disait que dans un an on serait 50. Je me disais moi-même, j'avais du mal à croire à ce que je disais. et donc du coup voilà, la boîte grandit et puis ensuite, je trouve que de déménager dans ce nouveau pays qui est un peu moins nouveau maintenant parce que ça fait 2 ans et demi, mais quand tu arrives aux US, je trouve que tu vois tout beaucoup plus grand. Tu vois aussi des ambitions énormes et puis tu t'arrives et puis t'es dans ton pays, t'as l'impression que t'as créé quand même une boîte qui est pas toute petite et puis en fait t'arrives aux US et là tu te sens vraiment tout petit. Donc c'est génial parce que ça décuple l'ambition, mais effectivement n'étant pas tout en n'étant pas une ambition de j'écrase tout le monde, c'est pas ça, c'est plus l'ambition de créer alors une boîte, mais surtout de créer un environnement où les gens sont épanouis dans leur boulot. Hein. Ça, c'est la troisième valeur d'AB Testing, qui est l'enthousiasme. Aimer ce qu'on fait, aimer son boulot, et puis derrière, évidemment, proposer quelque chose de toujours plus innovant pour nos clients. C'est ça qui est hyper excitant. Après, derrière, si tu arrives à tout bien faire, le chiffre d'affaires suivra, j'ai envie de dire. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de continuer à proposer des choses toujours plus innovantes, d'accompagner les clients pour aller toujours plus loin. Et puis surtout, pour moi, l'essentiel, c'est d'avoir des collaborateurs qui sont épanouis dans leur travail et à qui on peut proposer à la fois de grandir en interne. Il y a beaucoup de mobilité internationale, ça c'est l'avantage aussi d'avoir beaucoup de bureaux, de gens qui bougent dans les bureaux. Je pense que c'est sympa de bosser dans une boîte où tu sais que tu peux partir potentiellement aux US. On a ouvert au Canada là, donc tu peux partir potentiellement au Canada, tu peux partir à Londres, tu peux partir à Singapour. C'est quand même chouette.
Message pour les futurs recrutés à BTC. Olivier, je vois que tu voulais réagir. J'ai juste, si tu veux bien, une question sur ce sujet RH qui parle aussi un peu des transitions et du regard aussi sur l'entreprise. C'est une question de notre ami Philippe Mabi de La Tribune, on l'écoute.
Vous avez un message.
Bonjour, la forte croissance des startups, l'hypercroissance même des startups dont on parle beaucoup, soulève des questions de management et de gouvernance dans les startups. Parfois, les startups vendent du rêve et certains se découvrent que le rêve peut tourner au cauchemar. Il y a actuellement un mouvement sur les réseaux sociaux qui s'appelle Balance ta startup, où de jeunes employés se plaignent des conditions de travail, parfois très dures, dans ce milieu. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous reconnaissez qu'il y a un problème particulier dans les startups lié à la croissance rapide de ces jeunes pousses? Et quelle réponse peut-on y apporter? Merci.
On peut AB tester CRH peut-être?
Non, c'est une question hyper... hyper intéressante. Je pense qu'effectivement, de grandir très vite, et en plus de ça, très souvent, les personnes qui sont à la tête de ces startups sont ce qu'on appelle des first-time CEO. C'est-à-dire que voilà, c'est la première fois qu'ils gèrent une boîte et donc ils apprennent plein de choses. Donc, il y a des erreurs qui sont faites, mais bon, je pense que bon, les erreurs, tu peux aussi les faire à tous les niveaux. Alors, je ne sais pas s'il y a plus de problèmes dans les startups que dans les grandes boîtes. Franchement, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est sûr que quand on croit très vite, il faut des profils qui sont adaptables et qui n'ont pas peur du changement. Moi, c'est ce que je dis parfois aux équipes. Parce que bah oui, parfois, ça va changer assez rapidement parce qu'en fait, l'équipe, elle a grossi vite ou que le manager est parti ou je sais pas ce qui s'est passé. Donc, oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de changements dans une startup que dans une très grosse entreprise, je pense. Donc, il faut recruter des gens qui sont pas réticents, on va dire, au changement. Et après, est-ce qu'il y a plus de problématiques dans les startups que dans les grands groupes sur le management? Ça, je ne sais pas le dire. Enfin, je pense que ça dépend des boîtes. Et puis,
Il y a d'autres comptes qui existent à l'image de Balance ta Startup sur les agences, les gros cabinets de conseil.
Ouais, c'est ça. Je pense que de toute façon, ça dépend du management, ça dépend des boîtes, ça dépend de plein de choses. Moi, je pense que c'est plus les gens à la tête que...
Est-ce que quand tu es arrivé aux États-Unis, par exemple, est-ce que tu as recruté aussi donc, des Américains? Il y a pas... Je ne sais pas quelle est la proportion, tu parlais de 20 personnes aux États-Unis, c'est ça?
Ouais, c'est ça. On est, on est en train de recruter pas mal, là. On devrait être 30 d'ici la fin de l'année. Ouais.
Et il y a combien, d'Américains ou de non-Français?
Alors, il y a une majorité d'Américains. Il y a 200% Français, moi et quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui est venu en VIE et puis ensuite qui est maintenant en contrat local avec Avetesti. Et on a un franco-américain. Donc, le reste, c'est des Américains.
Et du coup, ta question, Olivier, ouais.
Oui, ma question, c'était plutôt par rapport à ce contexte, justement, un peu de nouvelle culture. Alors, tu as dit, voilà, tout est grand, il y a l'ambition, effectivement. Et on dit souvent ça sur les États-Unis, le côté « big is beautiful ». Est-ce que tu as le senti, est-ce que tu apprends des choses que tu peux nous partager dans les meilleures pratiques américaines et aussi peut-être dans les forces françaises que tu as perçues parce qu'il n'y a pas de raison d'être toujours avoir un complexe d'infériorité.
Non, pas du tout. Alors, absolument pas. Moi, je trouve que justement, il y a du très bien dans des deux côtés et que ce qui est génial, c'est justement de savoir, de savoir le trier et de prendre le meilleur des deux côtés. Parce que je pense que si je commence par la France, je pense que on a des gens qui, alors déjà, on est très bon sur la partie tech et produits, je pense. Voilà, je pense que les ingénieurs français, les ingénieurs européens, on va dire, sont dans les meilleurs au monde. Je pense qu'en France, on est efficace. Je pense qu'on a aussi des profils de gens qui sont un peu moutons à cinq pattes et qui sont capables de faire pas mal de choses. Voilà, il y a plein d'avantages en France. Et puis aux États-Unis, moi, je suis extrêmement admirative c'est très basique ce que je vais dire, mais voilà, la manière dont ils se vendent, de la manière dont ils... du marketing à l'américaine. Moi, je trouve que c'est vraiment les meilleurs pour raconter des histoires. Et puis à chaque fois que je fais un call avec quelqu'un aux US, il arrive toujours à me raconter une histoire, et ça, j'adore, parce que je trouve qu'il t'emporte. donc ça, c'est quelque chose que j'apprends et que j'admire énormément. Et
tu ne peux pas refaire le coup de « c'est né en Bolivie avec un chaman », ça marche pas.
C'est ça, exactement. Tu vois, je commence à prendre un petit peu le pli. Ils font beaucoup de comparaisons. Enfin, je trouve qu'ils ont une manière d'imager la vie qui est vachement bien. Puis l'autre chose aussi, c'est que comme c'est un pays qui est habitué à traiter de la masse, ils sont hyper process, ce qui fait que c'est hyper hyper bien parce que tout est souvent assez clair, assez processé. Donc c'est un peu la magie, la beauté du process que je trouve assez extraordinaire. Le pendant de ça, c'est que derrière, c'est des métiers très spécialisés. Moins de profils un petit peu moutons à cinq pattes comme ce qu'on peut avoir en France. J'ai une tâche et je fais la tâche. Mais par contre, je trouve que une fois que ils ont leur poste, etc., et quand ils sont bons, évidemment, enfin de toute façon, ça c'est pour n'importe qui, pour des Français aussi, ça déroule vachement bien.
Est-ce que votre premier client, votre plus gros client aujourd'hui, il est américain ou il est français?
Notre plus gros client est espagnol et anglais.
Ah voilà.
Mais voilà.
Mauvaise question. D'accord.
On a des gros groupes. Hein, j'ai pas parlé de nos clients, mais on a des très gros groupes. On a LVMH, on a L'Occitane, on a Richemont, qui sont des groupes qu'on a worldwide. Donc en fait, on a nos plus gros clients sont un petit peu mondiaux. On a L'Oréal aussi qu'on a un peu partout. Mais si je prends un single client sans prendre un grand groupe comme ça, les deux plus gros clients sont au UK et en Espagne. Ouais, c'est drôle.
Il y a deux choses qu'on n'a pas évoquées, Alix, et je vois le temps qui défile, mais alors c'est vrai qu'on est toujours plus content de parler de ses clientes que de ses concurrents, mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé de votre marché.
Ouais.
Et notamment, je crois que quelqu'un te présentait comme le leader mondial de votre sujet. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que c'est déjà le cas? Et du coup, c'est vrai qu'avec beaucoup d'entrepreneurs du Next 40, on parle de croissance externe. Je crois que vous n'en avez pas encore fait, mais je me trompe peut-être. Quel est votre positionnement sur ce point?
Ouais, alors sur le point leader mondial, moi ça me va très bien. Leader.
Ça va toujours.
Leader européen, ça j'en suis sûr. Leader mondial, on a un gros concurrent sur les US. Alors on a du Google, on a du Adobe. Enfin, il y a quand même des très gros players hein, sur les États-Unis. Donc non, on n'est pas leader aux États-Unis, ça c'est sûr. Mais par contre, on est bon challenger et surtout on grossit vite aux États-Unis, donc ça c'est chouette. Et après évidemment la croissance externe, nous c'est quelque chose bien sûr qu'on considère, puisqu'aujourd'hui il y a pas mal de boîtes dans donc, ce qu'on appelle le MarTech, donc le marketing technology, qui peuvent être complémentaires à ce qu'on fait. Donc, oui, nous on est totalement ouvert sur le sujet. On ne l'a jamais fait. Là, j'ai pas de plan précis en ce moment dessus, mais par contre, on va dire qu'on est quand même proactif et puis on regarde un petit peu des boîtes qui pourraient être intéressantes pour fusionner ou pour ou à racheter.
Content Square, ça fait partie des boîtes?
Alors Content Square, on n'est pas sur le même. Pour le coup, on n'est pas sur le même. Alors eux, ils ont déjà racheté des boîtes.
Je dis ça parce que vous êtes tous les deux Next 40 et on avait déjà des questions de rachat entre boîtes du Next 40. On trouvait ça intéressant.
Ouais, c'est vrai. Mais non, écoute, eux, ils sont vraiment. C'est ça qui est intéressant. Par contre, c'est un partenaire parce qu'eux, ils sont vraiment sur la partie analyse du site. Donc un peu en amont de ce qu'on fait. C'est-à-dire, je comprends les comportements des utilisateurs et puis nous, après, c'est j'agis chez nous sur les utilisateurs. Donc on est plutôt. On est plutôt complémentaires et on est très et on fait beaucoup de partenariats avec eux sur la France et puis un petit peu sur les US aussi. Mmh.
Une dernière question de notre partenaire Neuflys OBC et son patron Laurent Garret sur peut-être les suites et l'avenir pour le produit ABTesti. On l'écoute. Ouais.
Vous avez un message.
Bonjour Alex. Vous avez permis à ABTesti de devenir le leader mondial de l'optimisation de l'expérience client. Alors, j'ai une question. Est-ce que l'un des challenges ABTesti ne pourrait pas être de miser sur le machine learning pour optimiser en temps réel le parcours utilisateur et ainsi donner encore plus de puissance à votre plateforme? Merci.
Alors, super question. Alors, en fait, on a
tu
déjà…
Tu vois que tu es leader mondial.
Je suis leader mondial, j'adore. Non, mais voilà, on a très bonne question. En fait, on a beaucoup investi hein, sur… on a une équipe de data scientists depuis 2014. Hein, je crois qu'on a été un des premiers à avoir dans notre secteur une équipe de data science dès le début qui a justement construit des algorithmes pour être capable effectivement d'adresser le bon message au bon moment au bon utilisateur. Donc ça c'est quelque chose qu'on fait déjà au niveau groupe d'utilisateurs, on ne fait pas au niveau individuel, mais par contre on a effectivement des fonctionnalités qui proposent de dire ces consommateurs là ils sont plutôt appétants à la vente, ceux là ne le sont pas, ceux là il faudra plutôt leur adresser un message dans un peu plus longtemps. Donc on a déjà des algos qui permettent d'adresser les bons messages en temps réel. Donc évidemment que c'est dans la roadmap de continuer là-dessus.
Et je pose la question de Laurent Garret, à 10 ans, qu'est-ce que tu vois comme option, comme features qui serait la suite logique de votre métier? En tout cas, la suite rêvée, tu vois, le petit challenge techno.
La vision, il y a vraiment, pouvoir… aujourd'hui, ce qu'on propose vraiment aux clients, ce que j'adore dire, c'est… on va vous rendre hyper agile, c'est-à-dire que vous allez pouvoir tout modifier en temps réel, vous allez pouvoir tout tester en temps réel, vous allez pouvoir tout personnaliser en temps réel, ce qui est quand même génial, parce qu'en fait, ça permet aussi de développer la créativité de nos clients. Et en gros, nous, l'idée, c'est vraiment d'être au début des process de nos clients, c'est-à-dire, je voudrais créer quelque chose de nouveau, une nouvelle feature, etc., hop, je la mets dans ABTesti qui est au début du tuyau, tu vois, et puis qui va dire, ça marche bien, ça marche pas bien, ça faut que tu l'adresses à ses utilisateurs, ça faut que tu l'adresses à l'utilisateur, et puis qui en fait, en temps réel, va modifier le site pour tout le monde, quoi. C'est vraiment ça la vision à long terme.
Olivier, je te propose un tout dernier mot avant de passer à la seconde partie, moi qui est toujours ma préférée. On va s'intéresser à la femme entrepreneur et tout ce qui a pu forger Alix dans sa vie et qui expliquera peut-être en partie la réussite d'ABTesti.
Mon Dieu.
Eh ben, Alix, on arrive à la fin de la partie 1 de ton podcast 40 Nuances de Next. On a compris les ressorts du succès de l'entreprise, de la start-up devenue scale-up ABTesti. Et on te remercie pour ce témoignage, cette sincérité, aussi toute l'énergie que tu transmets par la voix, y compris de l'autre côté de l'Atlantique. et on va pouvoir passer dans la partie 2 qui est consacrée à la personne, à l'humain derrière l'entrepreneur, la femme entrepreneur, et c'est aussi passionnant que AB Testi.
40 nuances de Next.
The Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.